peintres se sont inspirés pour peindre leurs tableaux. Et un passage aussi qui peut, a priori, paraître, lors d'une première lecture, pour certains, heurtant, choquant. Il s'agit du sacrifice d'Abraham, ou d'Isaac, précisément. Alors, si une bonne volonté peut nous en faire la lecture, je regarde Anthony, et nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 14. Chapitre 22, Genèse 22, à partir du verset 1er jusqu'au verset 14.
Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham, il répondit, me voici. » Dieu dit « Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va dans le pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui ses deux jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, « Vous, restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi nous irons là-haut pour adorer. Puis nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham et dit « Mon père !» Il lui répondit « Me voici, mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit l'autel et disposa le bois. Il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel. Par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» L'ange dit « N'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Adonai Yireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu.
Yahweh Jireh. Selon Wikipédia, les sacrifices humains, qu'on peut qualifier au passage d'abomination, d'atrocité, barbare, étaient liés à des rites religieux que l'on trouve dans quasi toutes les civilisations antiques. En Chine, dans la Rome antique, dans la Grèce antique et dans la civilisation précolombienne en Amérique du Sud. Leur but, le but de ces sacrifices, eh bien, c'était d'attirer les faveurs des dieux pour, par exemple, conjurer la sécheresse et bénéficier d'une culture d'abondante récolte. En Égypte ancienne, par exemple, eh bien, à la mort des pharaons de la première dynastie ou bien des personnages de la haute noblesse, on sacrifiait aussi leurs serviteurs afin qu'ils puissent continuer à les servir dans l'au-delà. Un autre exemple, chez les Aztèques qu'on trouve en Amérique centrale, au Mexique, eh bien, eux, ils pratiquaient la cardiectomie, c'est-à-dire qu'ils arrachaient le cœur des pauvres victimes encore battants. Les Gaulois, eux, confectionnaient des géants en osier avec des branches flexibles et de la paille qu'ils remplissaient d'êtres humains et puis ils y mettaient le feu. Au Moyen-Âge, lors de messes noires, contrefaçon blasphématoire des messes traditionnelles, des messes classiques, des enfants dont le sang était versé dans des calices étaient offerts aux démons. Et de nos jours encore, certaines sectes, s'adonnent encore, se livrent encore à des assassinats, à des meurtres rituels. Au Mexique, en 2012, par exemple, la police a arrêté 8 personnes soupçonnées d'avoir tué 2 jeunes garçons et une femme dans le cadre de sacrifices rituels dédiés à la secte des morts, à la secte de la Sainte Mort. La même année, en Inde, un sorcier a décapité un jeune garçon de 11 ans pour en offrir la tête à une déesse locale, en 2012. En 2009, la police en Ouganda a enregistré les cas de 123 personnes, pour la plupart des enfants, qui ont été sacrifiés à des fins de sorcellerie. Et les exemples continuent de se poursuivre. Tout ça pour dire que ce genre de choses existe encore de nos jours, existe encore aujourd'hui. À l'époque d'Abraham, les sacrifices humains d'enfants ou bien d'adultes étaient également courants dans le pays de Canaan et aux alentours. Sur un haut lieu, au sommet d'une colline, on offrait à l'idole, à la divinité, ici en l'occurrence Moloch, des êtres humains. Alors, des sources rabbiniques décrivent Moloch comme étant une statue faite de cuivre ou bien d'airain, creuse à l'intérieur. Elle tendait les bras comme ça pour recevoir l'offrande, le sacrifié, la pauvre victime. Elle avait une tête de taureau. Et d'autres sources précisent que la statue était perforée, la statue creuse à l'intérieur était perforée de trous dans lesquels on jetait des victimes qui étaient embrasées, consumées par les flammes d'un foyer qui était entretenu par des prêtres. Ça, c'était ce qui se passait à l'époque d'Abraham. Et le but de ces pratiques honteuses, on ne peut pas les qualifier autrement, évidemment, était, comme je l'ai rappelé il y a un instant, de s'attirer les faveurs des divinités, des idoles, afin de remporter la victoire contre des ennemis ou bien de bénéficier de récoltes abondantes. Et la Bible, en de nombreux endroits, mentionne des exemples de ce genre d'exemple de sacrifice humain. Et on peut citer, par exemple, 2 Rois, chapitre 3, si on peut l'afficher derrière moi. Merci, Valentin. 2 Rois, chapitre 3, 26 et 27, où nous lisons Deux Rois, chapitre 3, versets 26 et 27. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils, premier-né, qui devait régner à sa place, et l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Même le peuple d'Israël, malheureusement, s'est aussi adonné à ce genre de pratique. Et c'est le cas, par exemple, du roi de Juda, Akaz, qu'on ne doit pas confondre avec un autre roi terrible, Akab, roi du royaume du nord d'Israël. Concernant Akaz, roi de Juda, 2 Rois, chapitre 16, verset 3, nous dit ceci. Tu peux l'indiquer aussi, tu peux le projeter aussi. Merci. Il marcha dans la voie des rois d'Israël et même il fit passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Et pourtant, la Bible affirme avec force que Dieu rejette énergiquement ce genre de pratique. Dans la loi, Lévitique chapitre 18, verset 21, Deutéronome chapitre 12, verset 31, dans les livres historiques, 2 Rois 16, verset 3 et chapitre 21, verset 6, et dans les prophètes, Jérémie chapitre 7, verset 31 et Michée chapitre 6, verset 7, entre autres. Et nous pouvons lire un de ces versets, par exemple celui de Lévitique chapitre 18, verset 21, si tu veux bien l'afficher derrière moi. Où nous lisons « Tu ne livreras aucun de tes enfants pour les faire passer à Moloch et tu ne profaneras point le nom de l'Éternel. » Les applications pratiques de ce passage. Pourquoi dès lors, étant donné le fait que Dieu a en abomination ce genre de choses, pourquoi dès lors Dieu demande-t-il à Abraham de sacrifier son fils ? Pourquoi donne-t-il cet ordre incompréhensible alors qu'Isaac est l'héritier de la bénédiction qui doit s'étendre à toutes les nations ? Pourquoi ? Alors, premièrement, parce que Dieu veut tout d'abord apprendre à Abraham ce qu'il révélera plus tard aux autres écrivains sacrés, c'est qu'il ne veut pas de sacrifice humain comme ceux qu'en offrent les Ammonites ou les Moabites à leur faux Dieu. Il veut qu'Abraham se dissocie, rompe avec ses coutumes barbares et autres influences de la société dans laquelle il vit. Deuxièmement, pour répondre à cette question, mais pourquoi est-ce que Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils ? Eh bien, c'est qu'à travers le récit de l'histoire d'Abraham, on voit une préfiguration du sacrifice de Jésus-Christ. Il y a, quand on regarde dans les détails, pas mal de similitudes entre le sacrifice d'Abraham et le sacrifice de Jésus-Christ. Alors, on peut rappeler, par exemple, au verset 2, tous deux sont les fils uniques de leur père. Dieu demande à Abraham de prendre son fils, son unique, et Jésus a été offert comme étant le fils unique du père, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Jean 3, verset 16. Verset 2 toujours, tous les deux sont les bien-aimés de leur père. Matthieu, chapitre 3, verset 17, lors du baptême de Jésus, il y a une voix qui se fait entendre du ciel et qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Tous les deux sont les fils bien-aimés de leur père. Tous les deux sont présentés aussi pour être sacrifiés. Jean 19, verset 18. Au verset 2 encore, selon la tradition juive, eh bien, la région de Moria, ou Morija, c'est l'endroit où a été construite la ville de Jérusalem, et puis plus tard le temple. C'est aussi sur une de ces montagnes que Jésus a été crucifié. Et certains même pensent que là où Isaac a été crucifié, c'est l'endroit même où Jésus a été crucifié. Un autre parallèle. Au verset 6, nous voyons que tous les deux portent le bois pour le sacrifice. Au verset 6 encore, l'expression « ils marchèrent ensemble » montre la communion constante qu'il y avait entre le Père et le Fils. Et puis au verset 9, on voit que Isaac est un jeune homme. Certains même pensent qu'il a 37 ans. Donc il est en âge de pouvoir se défendre contre un vieillard, son père, en l'occurrence de le repousser, ou au moins de fuir. Mais, au contraire, il se laisse lier sur l'autel comme Jésus s'est laissé clouer sur la croix. Tous les deux sont soumis à la volonté de leur père. Et Jésus a dit en Jean 6, verset 36, « Je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Alors, au verset 13, dernier parallèle que l'on peut faire ressortir de ce texte. Il y en a peut-être d'autres. Isaac, rendu à son père, est une figure de la résurrection du Christ. Et c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rapporte en Hébreux chapitre 11, verset 19. Tu peux l'inscrire là derrière moi si tu veux, Chloé. Hébreux 11, verset 19. Il, Abraham, pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Isaac, figure de la résurrection de Jésus-Christ. Isaac, qui revient auprès de son père, figure de la résurrection de Jésus-Christ. La différence notoire est que Isaac a été remplacé par un agneau, mais Jésus, lui, a été l'agneau de Dieu qui s'est offert sans retour pour le pardon de nos péchés. Alors, troisièmement, pour répondre à cette question, mais pourquoi est-ce que Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils Isaac? Eh bien, c'est pour mettre Abraham à l'épreuve, pour le tester. Et ça apparaît dès le verset premier, où nous lisons, chapitre 22, verset premier, « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. » Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Donc Dieu veut voir jusqu'où Abraham peut aller pour lui obéir. Et Dieu veut aussi jauger, mesurer, vérifier le degré de foi d'Abraham. Alors la foi d'Abraham se montre dans une obéissance immédiate et sans discuter, une obéissance inconditionnelle. Il aurait pu très bien dire, mais Seigneur, mais c'est le fils de la promesse, c'est le fils de mes vieux jours, c'est le fils que j'ai tant entendu, que j'ai tant espéré, c'est mon unique, c'est mon bien-aimé, tu vas quand même pas faire ça, Seigneur. Abraham ne dit rien. Abraham ne fait rien valoir. Abraham n'avance aucune argumentation pour contester Dieu, comme il l'a fait, par contre, lorsqu'il a intercédé pour les villes de Sodome et Gomorre, on s'en souvient. « Seigneur, s'il y a 50 justes dans cette ville, est-ce que tu n'épargnerais pas la ville à cause de ces 50 justes ?» Et puis il descend, il marchande un petit peu avec Dieu. S'il n'y en a que 40, s'il n'y en a que... Abraham, ici, ne dit rien, ne fait rien valoir, il accepte l'injonction que Dieu lui donne. Et il démontre par là sa foi. Deuxièmement, la foi d'Abraham se manifeste déjà au verset 5 du chapitre 22. Quand il dit au revoir à ses deux serviteurs, il est écrit au verset 5, « Restez ici, et un petit peu plus loin, et nous reviendrons auprès de vous. » Nous, le « nous » englobe le Père et le Fils. Nous reviendrons auprès de vous. Alors sans doute que l'explication à cet acte de foi se trouve dans l'anticipation de la résurrection d'Isaac. Et c'est ce que Hébreux, encore une fois, confirme au chapitre 11, verset 19, lorsqu'il était écrit, il, on l'a lu tout à l'heure, il, donc Abraham, pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Ça, c'était la foi, la conviction qu'Abraham avait. Abraham savait que Dieu, que ce Dieu qui ne ment pas, lui avait promis que sa descendance innombrable, passerait par Isaac. Et donc, il était certain que même si Dieu lui demandait de sacrifier son fils Isaac, il allait ensuite le ressusciter. Cette foi d'Abraham a sans doute aussi été nourrie par sa paternité issue d'un corps, nous dit le texte de l'Épître aux Romains, déjà gagné par la mort, d'un corps déjà comme mort. C'est Romains chapitre 4, versets 18 à 22 qui nous rapporte cela, et on peut lire peut-être le verset 19. que tu peux afficher là derrière moi. Romains 4, verset 19. Isaac, où l'impossible est devenu possible finalement. Et Hébreux 11, verset 19, vous dit « Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle avait, entre parenthèses, 90 ans. » Donc c'était foutu pour eux. Ils avaient déjà eu l'occasion d'expérimenter la dimension de la foi en attendant leur fils Isaac. Alors voilà pourquoi, finalement, l'auteur de l'épître aux Romains, l'apôtre Paul, dit que Abraham a espéré contre toute espérance. Au verset 18. Il espéra contre toute espérance. Et c'est la raison pour laquelle Abraham fait partie du panthéon de ces héros de la foi qu'on trouve dans le chapitre 11, tellement beau, de l'épître aux Hébreux. Quel exemple pour chacun d'entre nous qu'Abraham et la foi dont il a pu faire preuve. Abraham, un exemple d'homme de foi. Une confiance totale, pleine et entière envers ce Dieu qu'il connaît personnellement et dont il est convaincu qu'il peut tout, même la réalisation de choses qui paraissent impossibles à vue humaine. Quatrièmement, pourquoi cette injonction de Dieu envers Abraham? Pourquoi Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils? Eh bien, c'est aussi pour nous montrer que Dieu attend de chacun d'entre nous que nous lui consacrions, que nous lui offrions ce que nous avons de plus cher. Dieu attend de chacun d'entre nous que nous lui offrions ce que nous avons de plus précieux, ce à quoi on tient le plus. Pour Abraham, il n'y avait rien de plus précieux pour lui que son fils bien-aimé, son fils unique. Il n'y avait rien de plus précieux, il n'y avait rien de plus cher à ses yeux. Et Dieu attendait de la part d'Abraham qu'il lui offre ce qu'il avait de plus précieux. Et Abraham était disposé dans son cœur à faire ce sacrifice pour Dieu, à obéir à Dieu. Quant à nous, qu'avons-nous de plus précieux que nous pourrions offrir au Seigneur en sacrifice? Qu'avons-nous de plus précieux que nous pourrions offrir à Dieu en sacrifice? Alors Dieu espère de nous que nous lui offrions, par amour, ce à quoi on tient le plus, comme je l'ai dit il y a un instant, ce à quoi on s'attache le plus parfois aussi, et qui contribue à notre propre confort de vie. La notion de sacrifice implique qu'on offre quelque chose qui a un prix, qui nous coûte quelque chose. Et 2 Samuel, chapitre 24, verset 24, nous le rappelle quand David dit « Je n'offrirai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien ». On se souvient de cet épisode, il y a une épidémie de peste qui s'est répandue dans le camp d'Israël, parmi le peuple d'Israël, et Dieu demande à David de lui offrir des sacrifices pour que la peste disparaisse. Alors il y a une personne là que David va rencontrer, qui possède une belle surface avec des bœufs, et en voyant le roi David, cette personne lui dit « Mais c'est pour toi, je te le donne. » Et David lui dit « Non, je ne veux pas, je veux te payer à pièce d'or. » Et c'est ce que David va faire. Et c'est dans ce contexte que nous pouvons lire ce verset « Je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. » Un sacrifice, ça coûte. Dieu attend de chacun d'entre nous que nous puissions considérer le fait de lui offrir quelque chose qui nous est parfois précieux. Hein? Donc sans quoi, sinon, c'est pas un sacrifice. Alors, par exemple, ainsi, on peut considérer que notre temps est précieux. C'est précieux, le temps. Généralement, on consacre la majeure partie de notre temps à des fins personnelles, parfois égoïstes. Hein, combien de temps est-ce qu'on ne consacre pas dans le cadre de nos hobbies, de nos distractions, pour regarder la télévision ou bien pour faire des heures supplémentaires? C'est pas mal. Mais combien de temps reste-t-il à offrir à Dieu pour lire sa parole, pour méditer sa parole, pour prier, pour intercéder pour les autres? Combien de temps nous reste-t-il pour offrir à Dieu? Alors, on peut considérer aussi que notre argent est quelque chose de précieux. Nos biens sont quelque chose de précieux. Et on en a besoin. C'est indispensable pour vivre, pour se loger, pour se nourrir, pour se chauffer, pour payer ses factures, pour se faire plaisir, c'est légitime. Mais à côté de cela, il y a aussi l'œuvre de Dieu, les serviteurs de Dieu, le soutien des serviteurs de Dieu, des missionnaires, des pasteurs, de l'Église, etc. Consacrons-nous aussi nos biens en sacrifice pour le Seigneur. Alors, autre chose, mes compétences, mes aptitudes, mes capacités, elles sont aussi précieuses. Précieuses pour mes amis, précieuses pour moi, précieuses pour les membres de ma famille, précieuses pour mon patron au travail. Ils apprécient mes compétences, mes aptitudes, mes capacités. Mais si je pratique ou si je partage mes compétences, mes dons naturels dans le cadre de l'Église, eh bien ces dons naturels deviennent des dons spirituels. Je peux mettre à profit mes capacités pour le service dans l'Église. Est-ce que je consacre mes compétences aussi pour Dieu, pour son œuvre, pour son Église? Alors, en définitive, Dieu, eh bien, il attend de nous que nous lui offrions nos vies. Dieu attend de chacun d'entre nous que nous lui offrions nos corps. Et c'est ce que l'apôtre Paul rappelle en Romains chapitre 12, verset 1. On connaît bien ce verset, bien évidemment. Hein. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir en sacrifice vos vies. Ce qui sera de votre part, vos corps plutôt, ce qui sera de votre part, eh bien, ce qui sera de votre part, il faudrait peut-être l'afficher là derrière, un culte raisonnable, sain et agréable. Non, je me bafouille un petit peu, il faut que tu le copies là. Donc, Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà ce que Dieu attend d'entre nous, de nous. Dieu attend que nous lui offrions nos vies, nos corps en sacrifice. Dieu nous a rachetés par pure grâce, à un grand prix. Ne mérite-t-il pas à son tour que nous lui offrions toutes les entités de notre être, toutes les parties de notre être, comme notre âme, comme notre amour, comme notre cœur, comme notre corps, comme notre volonté, comme nos membres? Dieu attend que je lui offre ma voix pour le célébrer, pour le louer, pour l'adorer. Dieu attend que je lui offre ma bouche pour prononcer des paroles de bénédiction et des paroles d'encouragement à ceux qui en ont besoin. tu attends que je lui offre aussi mes oreilles pour développer une qualité d'écoute envers ceux qui en ont besoin. Dieu attend que je lui offre mes yeux pour que je jette un regard de compassion pour les plus faibles, pour les plus démunis. Dieu attend que je lui offre mes mains pour que je les mette au service pour lui. Dieu attend que je lui offre mes pieds pour me rendre aux différentes rencontres de l'Église ou encore pour aller vers les perdus, selon ce que Ésaïe au chapitre 52 écrit au verset 7, qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles et qui annonce le salut. Mes pieds, je les offre en sacrifice à Dieu. Dieu attend de moi que je m'offre entièrement en sacrifice pour lui. Pour conclure, rappelons qu'Abraham était disposé à offrir son fils en sacrifice. Ce qu'il avait de plus précieux, ce à quoi il tenait le plus au monde, ce qui lui était le plus cher, eh bien, Abraham était disposé à l'offrir en sacrifice à Dieu. Dieu lui-même, à la croix, nous a offert ce qu'il avait de plus précieux pour notre salut, sa propre vie. Dieu s'est offert pour chacun d'entre nous pour que nous puissions être au bénéfice du salut, du pardon, comme on l'a rappelé ce matin, du salut et de l'espérance de la vie éternelle. Alors, en retour, que lui offrons-nous ? Des miettes de notre temps, des miettes de notre argent, des miettes de nos compétences, de nos qualifications, de nos dons, des miettes de notre cœur, des miettes de notre amour, une partie seulement de nos vies, qu'offrons-nous à Dieu ? Notre Dieu ne mérite-t-il pas que nous lui offrions ce que nous avons de plus précieux ? Notre Dieu ne mérite-t-il pas que nous lui offrions ce que nous avons de plus précieux ? J'aimerais bien qu'on affiche le chant 238 derrière moi. On va le lire et puis on va le chanter. Regarde un petit peu si c'est celui-là, tiens. 238. Regarde si c'est bien celui-là. Voilà. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Et puis la suite. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Et puis la suite. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi.